vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Sorti de la maison pour s'asseoir au jardin, sur la terrasse, boude en pleurant. Non loin de lui, dans l'herbe, des traces de pas sur la terre, jusqu'au mur de la maison, et un couteau de poche à terre, sanglant. Le père et la mère prennent le café assis au salon. Le père dit que si son fils n'aime pas vivre avec eux, il n'a qu'à s'en aller. Qu'a-t-il à être comme ça? La mère lui dit, c'est à cause de ce que tu sais. Ça l'a plus traumatisé qu'on ne le croit. Un soir, il a été attaqué dans la rue par des voyous. La mère a pensé que c'était à cause de cela. Mais maintenant, elle sait que c'est à cause de son père. Mais elle ne veut rien dire. Le père lui dit, pourtant, il a tout oublié. La mère, peut-être, mais pas tout. J'ai l'impression qu'il sait. Et pour c'est sorti. Et le soir, j'ai trouvé dans la poche de son pantalon que je préparerai à donner à la lingerie un mouchoir taché de sang. On trouve souvent du sang sur les vêtements de Pierre. Et la mère a toujours pensé qu'il faisait des choses.
Tu en es sûr?
Oui.
Pourvu que ça ne recommence pas. Surtout que l'on ne sache pas ce qu'il fait et que personne ne le sache. Il faudra le surveiller et effacer toutes ses traces. Faisons comme si nous ne savions rien. Et traitons-le comme tout le monde.
On voit la mer dans une pièce, on entend le bruit de la ville, pièce de salon. Elle remet en vitesse son manteau, prend son foulard et sac et sort de la pièce en vitesse. Sort de l'immeuble et, avant de se mettre en route, elle regarde la fenêtre de la pièce. Vieil immeuble, rue de Brest, soupire, baisse ses yeux, regarde ses mains et fait signe au fiacre. Retour maintenant vers l'appartement. Chambre, lit, homme à terre, sur le dos, ciseaux dans le dos, mort. Retour vers Marie. Elle est entrée chez elle. Dans sa chambre, se déshabille et se prépare à prendre un bain. Le lendemain, Marie se réveille, a mal à la tête, se demande ce qu'elle a bien pu faire hier au soir pour être si fatiguée. Elle se soulève, voit, se sent toute courbaturée sur sa table de nuit, un verre avec des taches blanches. Elle se lève pour aller à la salle de bain. Mais déjà préparé le bain. Elle se déshabille pour se laver. Les pensées lui reviennent. Son fils, son mari. Elle se dit que dès que son fils sera en âge, elle lui dira de partir. Partir vivre ailleurs, comme a fait son frère. Parce que les enfants deviennent trop grands, il faut qu'ils quittent leurs parents. C'est mieux. Les jours passent. Pierre un après-midi, rencontre dans la rue un jeune homme d'à peu près son âge. Ils se sont connus au lycée. Le jeune homme est grand, maigre, a des lunettes, des cheveux en bataille, habillé de redingote marine. Il demande à Pierre, « Qu'est-ce que tu deviens ?» Pierre lui répond, « Toujours la même chose, je vis chez mes parents et ça ne va pas du tout, j'en ai marre. » Le jeune lui dit, « Allons au café discuter. » Et ils vont dans un café-brasserie. Le jeune homme lui dit, « Est-ce que tu n'as qu'à quitter ta famille ?»« Je n'ai rien. Avec quoi ? Puis je suis trop jeune. Et si je partais, ça ne changerait rien. Je fais partie d'eux. » »« Comment ?»« Leur sang coule dans mes veines. » »« Mais qu'est-ce que tu leur reproches ?»« Ce qui m'est arrivé, ce que je suis. » »« Tu ne peux pas comprendre. » Je comprends une chose, c'est que tu es replié sur toi-même et que c'est dangereux. Arrête de penser à toi, à tes petits malheurs. Vois les autres, ouvre-toi au monde, recrée ta famille. Je ne le peux pas. Et puis je suis sous haute surveillance. Danger. Qui te surveille? Eux. Pourquoi? Je suis parti de la famille des nuisibles. Tu racontes n'importe quoi. Ta maladie, c'est d'être narcissique. Tu t'es enfermé en toi-même. Enlève tes chimères de la tête et vis pour de bon. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne suis pas comme les autres. Les paroles, tout ça. Tu ne te crois pas comme les autres parce que tu te vois trop. Si tu savais ce qui m'est arrivé, tu ne me dirais pas ça. Et quand t'es-il arrivé? Je m'en souviens plus. Tu es complètement tordu. Je ne te crois pas. Je ne crois pas que les autres te veulent du mal. Et puis, de toute façon, il t'est arrivé des choses dont tu ne te souviens plus. Pierre aux yeux épaules lui dit, arrêtons de parler de ça. Tu as raison. Écoute, je t'invite dimanche à passer la journée chez ma grand-mère. Je te remercie, mais je ne peux pas. Et je ne veux pas te compromettre. Pourquoi ? Ça ne se voit pas sur ta figure. Je ne peux pas accepter. Il faut que j'aille chez ma tante. Et nous nous reverrons. Quand? Lundi, ici, 12h. Je ne peux pas te recevoir chez mes parents. Ce serait une véritable révolution. La première fois que j'amène un ami. Son sommeil est réveillé par un cri. Ah! Il se réveille. Le bruit vient de la chambre de son frère Albert qui est à côté de la sienne.
Il se lève en vitesse. Sort de sa chambre. Il va dans celle de son frère.
La chambre est éclairée. Là, il trouve le jeune homme allongé à terre, la tête au dos au lit, en pyjama, le bras en sang, un couteau à la main, qui pleure. Pierre s'approche de lui. Effrayé, il se penche vers lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait ça? Agacé lui dit, c'est rien, je me suis raté. Il veut le soigner, regarder ses plaies. L'autre le repousse. Qui t'a fait ça? Personne, c'est rien, c'est moi. Pourquoi? Tu ne réponds pas? Je voulais en finir. Pierre s'assoit près de lui, le prend dans ses bras, le serre très fort. Albert pleure encore plus. Pierre le regarde. Mais pourquoi? Il se remet à pleurer. Et?
Se lève. Il se jette sur lui, la tête la première.
J'ai voulu mourir parce que j'aime ma sœur. Comment? suis pour rien. C'est de leur faute. Je suis maudit. Surtout ne leur dis rien. Tu peux partir, je vais dormir un peu. » Et Pierre, surpris, étourdi, le quitte. Pierre va voir son oncle et sa tante, Charles-André, avec son fils, William. Sa mère est morte et il l'a prise avec lui, car le mari Diola ne le voulait plus et Apolline vit avec eux. La maison est à Charbonnière. C'est une grande bâtisse au milieu d'un parc. Elle a 3 étages, style Napoléon III, meublée Louis-Philippe. Pierre est bien reçu par son oncle et sa tante et Williams. On déjeune dans la salle à manger. Pierre est à côté de Williams. Charles-André lui demande « Comment vont tes parents ?»« Bien, toujours la même chose. Père grogne pour un oui, pour un non. Mère reste en dehors de tout. » « Oui, ton père a toujours eu un caractère bizarre, renfermé. À part ses écrits, rien ne l'intéresse. » Et comment va Albert?
Ça va, un peu fatigué. Tu lui diras que j'aimerais bien le revoir. Je ne vois presque jamais ici.
Après le repas, ils sont allés prendre le café sur la terrasse. Apolline se comporte comme si elle était la femme de Charles-André. Après avoir pris le café, William se lui dit « Viens, on va discuter dans ma chambre. » Ils se lèvent tous deux et Pierre suit Williams. Il le mène au 2e étage. Là se trouvent les chambres et salles de bain.
Il ouvre sa chambre, entre, Pierre entre.
La pièce est vaste, meublée avec des meubles anglais, un coin chambre et un bureau avec bibliothèque. Il dit à Pierre, c'est propre parce que la bonne a reçu l'ordre de nettoyer 2 fois par jour. Allons nous asseoir.
Ils vont s'asseoir sur des chaises au bureau.
Ils ne savent pas, c'est que je vais fumer de l'opium chez un ami de lycée. Et puis zut, ils jouent avec moi les moralistes, alors que durant leur jeunesse, ils ont fait des choses. Leur respectabilité est toute récente. Pierre lui dit, tu as raison, il faut un temps où personne ne voulait les recevoir. William demande, et comment va Jeanne et Albert? Pierre lui dit, ça ne tourne pas rond dans cette famille. Nous sommes tous maudits. Ils vont malheureusement vers le même chemin que mon oncle et ma tante. William lui dit, il va y avoir du scandale. Pierre lui dit, remarque, ça pourrait permettre à mon père d'être occupé à autre chose qu'à moi, parce qu'il est toujours après moi, si tu savais. William soupire et lui dit, moi je rêve de partir, de vivre seul. Pierre lui dit, moi je ne rêve même pas de partir. Mon mal, je l'ai en moi, alors que où que j'aille, William lui dit, « J'ai jamais compris ton dégoût de vivre. C'est passé quelque chose ?»« Si l'on veut, oui, un crime. Tu m'intéresses ?»« Moi non. Raconte. »« J'ai rien. C'était dans une chambre. On est entré. Qui ?»« La mort. » William lui demande. « Puis ?»« Rien. Le noir. Rien ?»« Rien. » Et qu'est-ce que tes parents font dans ce rêve où c'est vécu? Tout, William lui demande. Ils sont coupables, dénonce-les. Pierre lui dit, dénoncer qui s'est évanoui, et puis, je me suis peut-être trompé.
William lui dit, « Moi, je peux te dire, c'est que ta mère est capable de tout. » « Comment cela ?»«
Je le sais, c'est tout. » »« Je l'ai vue le lendemain de mes 15 ans. »«
Quelle femme !»
Pierre lui dit, « Oui, je sais, c'est une sacrée garce. »
William cherche à l'embrasser Pierre qui se dégage.
« Pourquoi ?»«
Parce que je ne veux pas. »
« Tu ne disais pas non avant. »«
Maintenant, c'est impossible. »
Il se lève et lui dit, « Ce fêtard doit partir. »
William se lève aussi et ils sortent de la chambre.
Jules va voir sa sœur Apolline qui a un petit appartement avenue de Saxe. Comme cela, elle peut recevoir et avoir son indépendance. Dans trois pièces, dans un immeuble cossu meublé Louis XV. Après le dîner, sont allés au salon.
Elle lui dit, « Tu pourrais pas me donner un peu d'argent ? »
La peinture se vend mal, car Apolline fait des tableaux qu'elle vend un peu.
Jules sort son portefeuille et lui donne des billets.
« Tiens, merci. » Tu es chic.
Tu sais, t'ai toujours préféré à Charles-André, mais tu étais tellement plus moins communicatif que j'ai pris Charles-André. Mais toi, c'est pas la même chose. Et puis, nous avons eu bon temps ensemble quand nous étions jeunes. Tu ne trouves pas ?
Il lui dit, arrivé à un certain âge, tout le monde pense comme ça. Mais en réalité, l'on regrette surtout sa jeunesse.
Elle soupire et lui dit, « Oui, la jeunesse que j'aurais dû avoir près de toi. »
Il lui dit, « Nous avons tout de même vécu une aventure extraordinaire. Et c'est la seule que tu as vécue et que tu l'as eue avec moi. »
Nous avons fait Pierre.
Elle soupire et lui dit,
« Oh oui, Pierre, mon fils, pour quelques heures. Mais c'est moi qui l'ai porté dans mon ventre.
Je lui dis, quand je pouvais faire un enfant à ma femme, sûrement à cause de timidité et de manque de désir, alors comme il fallait vraiment un enfant pour faire taire les mauvaises langues, j'ai pensé à toi. J'ai pu avec toi. Toi, tu es la seule femme à qui j'ai pu vraiment désirer.
Lorsque la chose a été faite, j'en ai parlé à Marie, crise de nerfs. Tentative de suicide. Puis, pour en finir, elle a dit oui.
Un médecin ami qui tenait une clinique nous a aidés.
J'ai dit à la famille que le bébé ne pouvait naître convenablement que dans une clinique à cause des complications.
Il était mal placé.
Vos chambres étaient voisines. La chose s'est bien passée.
Mais pour le deuxième enfant, j'ai juré à ma femme que ce serait comme il se doit.
Apolline lui dit, « Eh oui, mon seul enfant, un beau jeune homme. Comment va Marie ?»
Je lui réponds, « Elle se fait du souci pour ses enfants. »
Elle lui dit, « C'est normal. »
Et Pierre,
je lui dis, « Ça ne va pas. J'ai bien peur que l'on ait raison de dire qu'ils ne peuvent être que des dégénérés.
Il faudra sûrement le faire soigner, car il risque d'être dangereux. »
Comment ? Il y a des crises d'une très grande violence. À chaque fois qu'il sort, j'ai peur qu'il ne fasse des bêtises. J'ai envie de le suivre. Des fois, il rentre avec des vêtements en sang. On lui demande ce qui s'est passé. Il est incapable de dire.
Apolline lui dit, il doit se battre. Il faut le suivre.
Je lui dis, c'est pas si simple. Quelquefois, le matin, il est enfermé dans sa chambre de l'extérieur. Quelqu'un l'empêche de sortir la nuit. Pourtant, malgré cela, il m'arrive de trouver des traces de boue et de sang dans les escaliers. C'est donc qui sort.
Apolline lui dit, c'est donc ta femme qui doit l'enfermer le matin.
Il lui dit, elle me dit que non.
Mais dans la nuit, elle entend du bruit dans le couloir.
Apolline lui dit, c'est bien mystérieux tout ça. As-tu pensé que Pierre est dangereux,
qu'il se bat peut-être la nuit?
Je lui réponds, peut-être plus, j'ai trouvé un rasoir à terre. Tu me fais peur. Faut te surveiller. Oui, c'est sûrement ce que je vais faire.
Après-midi, William s'attend à la sortie du lycée jaune. Il est surpris de le voir.
William, oui, je suis venu te voir comme ça. On va au café?
Oui, je veux bien. Ils entrent dans un café près du lycée. Il y a du monde et c'est assez bruyant. Il commande deux jus de tomate. William regarde autour de lui et lui dit « Écoute, on ne peut pas parler ici. » Mes parents sont absents. Si tu veux, tu peux aller un moment chez moi et les épauler.
Il dit, oui.
Ils sont sortis du café. On prend un fiacre pour aller à Charbonnière. La maison est bien vide. Il l'amène dans sa chambre. Une fois qu'ils sont entrés, il la prend par la main. Il l'amène s'allonger sur le lit, l'un à côté de l'autre.
Il lui prend la main et lui dit « Je t'aime, Jean ». Et lui répond « Moi aussi, Williams. Mais c'est impossible. » Il lui dit « Si, partons, changeons de nom. »
Elle fait non de la tête et lui dit « Serons toujours cousins ?»
Il lui répond « Si tu veux pas vivre avec moi, je veux mourir avec toi. »
Il soupire, se plaque contre elle, la serre très fort. Il sent son odeur, sa chaleur, la chaleur de sa peau. Et sa tête sur sa poitrine, mais dans sa main,
il ne bouge pas, il sent la tête de William sur la poitrine, cette douce tête qui s'abandonne, et lui dit, je te jure, que je n'aimerai aucune autre personne.
Albert a passé la soirée dans un dancing. Il est un peu ivre et sort du dancing avec une fille rousse, un peu forte, dans les 22 ans, habillée d'une robe rouge voyante. Albert la suit comme ça. Ils vont chez elle. Elle va chez elle. C'est dans une petite rue triste. Le fait entrer dans un petit immeuble minable. Allée étroite, escalier de pierre, au premier, elle va ouvrir une petite porte en bois.
Entre. Il entre. Elle est claire. Elle ferme la porte.
C'est une pièce avec un lit à deux places, une table ronde, quatre chaises, un chauffage de charbon, un paravent où se trouve la table de toilette. Il se tourne vers lui, lui dit, sourit et lui dit « Allons-toi, mets-toi à l'aise. »
Il se déshabille. Se met au lit.
Salon Salon noir. Elle a dû s'endormir. Elle a dû s'endormir. Puis, bruit de pas, des images en flash, visage horrifié, sang. Puis, il a l'impression de transporter sur un dos quelque chose de lourd, de très lourd. Transporte quelque chose sur son dos. Puis, il se transporte. Il se sent transporté. Lui, puis, le noir. Déserte, se lève, se sent un peu ivre, ses vêtements sont sales. En marchant, il se souvient des images, des sensations, il se dit qu'il a rêvé. Entre chez ses parents, sans se faire remarquer, aller dans sa chambre, se nettoyer et se changer.
En enlevant sa veste,
un bout d'étoffe rouge tombe de sa poche. Il le ramasse, le reconnaît. Le bout a été déchiré. Il se demande s'il ne l'a pas tué, n'est-il pas fou? Ne se dédouble-t-il pas? Pierre va voir son grand-père qui habite un petit village entre Lyon et Grenoble, le Motier. Le grand-père est une ancienne ferme qu'il a fait restaurer, un peu en retrait du village, au pied du coteau boisé. Le grand-père vit en solitaire. Les gens ne l'aiment pas. On le prend pour un sorcier car il étudie les plantes médicales et la terre. Il s'est aperçu que certaines terres avaient certaines propriétés. Il le reçoit sur la terrasse car il fait très beau. Heureux de voir son petit-fils Pierre.
Tu ne viens pas assez souvent me voir. Ta grand-mère est à Grenoble. Voir une amie, je suis seul.
Regarde Pierre et lui dit:
tu es bien pâle, tu ressembles à une fille. Les gens qui pensent que leur plaisir ressemble à des morts.
Vous vous momifiez. Pierre lui dit:
je ne pense pas à mon plaisir, grand-père. D'ailleurs, quel plaisir puis-je avoir?
Tu es malheureux.
Je suis maudit.
Ça hausse les épaules et lui dit:
tout ça, ce sont des histoires. Ton père est fou. Il te raconte n'importe quoi. Moi, je sais bien, c'est que tu es comme tout le monde, normal. Oublie tout ça et vis ta vie.
Tu as sûrement raison, grand-père. C'est ce que je vais faire.
Dormir. Il se tourne et se retourne dans son lit. Ne pouvant plus, il se lève, met ses pantoufles, sa robe de chambre et sort de sa chambre. Il entre en faisant le moins de bruit possible dans la chambre de Pierre.
Il s'approche du lit, tout doucement, et là, il le voit, son fils Pierre, qui dort inconsciemment. Pierre s'est découvert, il est en caleçon, le sexe qui bande un peu, le regard clair de l'innocence, le corps en position comme s'il se donnait, les jambes écartées, les bras repliés, au-dessus de la tête, l'autre a le pouce dans la bouche. Jules le contemple et se dit tout bas, c'est vraiment un fils d'une extraordinaire beauté. Je ne suis pas fait pour être un père. Et il sort de la chambre. Depuis que Jules a vu son fils dans la nuit, il en est follement tombé amoureux. Malheureusement, il sait que cet amour est interdit et il est pris entre son désir et son moi. Cela le fait souffrir. Il souffre encore plus en voyant son fils. Alors, il est pris de folle tendresse pour lui et lui donne des caresses. Puis, dès qu'elles sont faites, le met en colère, car ce sont des caresses qui extériorisent son amour interdit. Pierre est irrité par ce chaud et ce froid. Je suis plus un enfant. Je ne dois plus me traiter comme ça. Puis, petit à petit, il se souvient du trouble de son père. Il se souvient qu'en se montrant à lui, il était désarmé. Alors, il ressent du pouvoir qu'il a sur son père et le dédaigne. Il le regarde avec malice, joue avec son corps. Marie, depuis qu'elle sait que son mari la délaisse pour son fils, ne dit rien, laisse faire. Elle se dit que si elle fait une réflexion, tout l'édifice familial fondé sur du faux va s'effondrer comme un jeu de cartes. Elle n'aura plus rien. Tant pis qu'il ne fasse plus son devoir conjugal. Et puis, pour ce qui est de Pierre, il est bien assez grand pour se défendre. Le temps passe. Jules, pour se guérir de cet amour incestueux, se met dans la rue à regarder les jeunes adolescents. Il y en a certains qui lui plaisent. Et même, il lui arrive d'en suivre. Mais ce plaisir des yeux n'arrange rien. Bien au contraire. Et il excite son appétit. Il ne peut satisfaire. Trouvé chez lui, il retrouve Pierre. Et celui qu'il retrouve tous les jours, c'est Pierre. Cela rend encore plus malade Jude. Après sa promenade, il va dans la chambre de Pierre, entre sans frapper. Pierre est dans son bureau. Il écrit. Il voit arriver son père, le sourire aux lèvres, qui se penche vers lui. Il lui caresse les cheveux. Pierre, mon tout petit Pierre. Mon Pierre. Jules, au fur et à mesure qu'il lui caresse la tête, s'essouffle, s'échauffe. Il lui dépose des baisers sur le crâne. Ses mains descendent le long du corps de Pierre. Pierre, qui, de dégoût, de surprise, prend du plaisir à ses mains, qui le caressent, à ses lèvres, qui l'embrassent. Il a envie de s'abandonner, à se laisser aller au mouvement de ses mains. Jules, qui le sent en harmonie, s'échauffe encore plus. Il a envie de son corps tout entier. Plus rien n'existe pour lui. Au diable le monde. Il prend Pierre par la taille, le soulève et le mène au lit. Pierre se laisse aller. Il est allongé sur le lit. Mais juste au moment où il va s'abandonner, où son père se penche sur lui, il entend des pas dans le couloir. Il ne se dit pas, ce sont des pas de ma famille, mais ce sont des pas qui le ramènent à la réalité. Non, père. Le père, surpris, se retire. Pierre se lève d'un bond. Il reste quelques secondes à se regarder.
Puis le père Collot quitte la pièce.
Pierre, essoufflé, se met la main sur les oreilles et pousse un grand cri. Puis s'allonge sur le lit. Il n'est pas le seul coupable. Moi aussi, j'ai eu du plaisir. Je maudis. Je n'oserai jamais plus revoir mon père, car il sait que j'ai eu du plaisir. Jules est pris d'un remords fou. Il a osé avec son propre fils. Je suis un criminel. Sans son cri, nous avons failli nous unir. Il ne faut plus que je le touche. Mais malheureusement, ce qu'il a fait, ce qu'il a goûté, est tellement bon qu'il ne peut s'en empêcher, qu'il peut s'empêcher d'y penser. Et la nuit, ces nuits sont hantées par des rêves où il se donne entièrement. Pierre ne supporte pas qu'on le regarde, qu'on le touche. Il se lave plusieurs fois par jour. Le temps passe. Petit à petit, Pierre, qui est jeune, reprend le dessus. Il pose toutes les responsabilités sur le père, car en se remémorant la scène, il a compris que c'était le père qui avait fait le geste. Alors il se met à le haïr et le dédaigner. En le voyant, il se dit, faut être criminel pour agir comme ça, pauvre mère. Albert est de plus en plus amoureuse de sa sœur. Un soir, ils sont allés au théâtre ensemble, chez John qui lui a proposé. En sortant du théâtre, ils sont tous deux éblouis par les yeux des acteurs. John lui dit, je rêve d'être actrice. Albert sourit et lui dit, comme Apolline. Elle lui dit, non, mieux. En passant devant un réverbère, par hasard, elle voit le visage de son frère. Et là, elle le voit illuminé par la lumière d'une extraordinaire beauté. Malgré elle, elle tombe amoureuse. Elle voit qu'il le regarde. Qu'est-ce que j'ai? Rien, tu es très beau. Il sourit et lui dit, toi aussi. Désormais, malgré elle, elle pense constamment à lui. Et lui, de son côté, pense à elle. Chacun rêve de vivre avec l'autre. Albert, en y pensant, se dit d'un coup, comme mon oncle et ma tante. Pierre supporte de moins en moins son père. Il le dédaigne et le soir, cela le dégoûte. Il fait rien et a de très mauvaises notes à l'école. Travailler pour quoi faire? Pour faire plaisir à l'autre ou être comme lui? Ne fréquente personne non plus. Même les filles l'agacent. Il se sent plus fort qu'elle. Et certains garçons lui donnent envie d'être comme eux. Il les trouve forts, beaux, purs. Tout ce qu'il a perdu à cause de son père. Jules est de plus en plus troublé, est ébloui par son fils et lutte contre cela. Cette lutte le met souvent en colère contre lui. Il lui crie après tous les soirs en entrant du travail. Dans sa chambre, il entre et lui dit « Tu n'as encore rien fait, petit feignant, je veux te dresser. » Il s'approche de son fils qui regarde avec un air moqueur et lui dit « Je t'interdis de me toucher. » Le père furieux quitte la chambre dans le plus grand tourment. Jules, pour assouvir ses mauvais instincts, essaye d'avoir des rapports avec d'autres jeunes gens. Mais malheureusement, il n'ose pas les aborder. Il reste un moment à les regarder dans la rue, à tourner autour d'eux, à souffrir la mort mais il ne le peut, quelque chose en empêche. Il souffre atrocement. Heureusement qu'il a suffisamment de force pour pouvoir faire ses cours normalement. Quant à ses écrits, ce ne sont que des choses ambiguës, des histoires où on n'en nomme pas les choses, mais elles se comprennent tout de suite. Un père qui aime sa fille, qui une nuit se donne à lui, un homme qui est à la recherche de son fils disparu et qui le retrouve sans savoir que c'est lui. Jean et Albert sont souvent ensemble. Le soir, ils passent des soirées chez Albert. Ils sont tous deux assis, bien sagement, à côté du bureau qu'il a dans sa chambre. Jean lui dit « J'aimerais vivre à Paris. Là-bas, on peut trouver du pour jouer au théâtre. » Albert se voit déjà avec Jean à Paris et lui dit « Oui, quittons cette vie. Partons. » Elle lui dit « Chiche, il suffit de prendre le train pour Paris. » Disons demain matin, elle a dit ça comme ça, comme un conte. Lui, ébloui, il croit y être et lui dit « Partons !» et ne disait rien à personne. Le lendemain matin, au lever du jour, ils ont quitté la maison pour aller à la gare, un petit sac de voyage à la main. Au petit déjeuner, Marie demande « Où est Jean et Albert ?» La bonne lui dit « Je les ai vus sortir très tôt ce matin, avec des bagages. » La mère intriguée va voir dans les chambres. Va voir dans les chambres, ne trouve rien. Elle décide d'en parler à Jules, juste avant qu'ils ne partent au lycée. « Ils ont disparu !» Il faut faire quelque chose. Tu en es sûr? Oui, la bonne les a vus partir tous les deux avec des valises. Je réfléchis une seconde et dis, je vais aller au commissariat. La police a été prévenue. Marie reste toute la matinée dans l'angoisse. Pierre est auprès de lui et essaye de la consoler. Elle lui dit en pleurant, « Je suis sûr qu'ils vont faire comme leur oncle et leur tante. Ça finira mal tout ça. » Pierre lui dit, « Apolline et Charles-André sont très bien. » Elle hausse les épaules et lui dit, « Tu crois que c'est une vie qui mène ?» En fin de journée, deux policiers ramènent les fugitifs. C'est la mère qui les reçoit au salon. Les deux jeunes ont l'air penauds avec leur valise à la main. Un agent dit à la mère, « On les a trouvés à la gare. »« Je vous remercie, monsieur. »« De rien, madame. » Les deux agents se retirent. Marie demande, « Pourquoi êtes-vous parti ?» Albert lui dit, « Une envie de voir le monde. » « Il ne faut pas nous en vouloir. C'était qu'un rêve idiot. » Marie lui dit. « Mais je ne vous en veux pas. Vous m'avez simplement fait mal. » Ils s'approchent d'elle et lui disent « T'en demandons pardon, mère. » La mère les embrasse et leur dit « Allez, rangez vos affaires maintenant. Allez les ranger dans vos chambres. » Le soir, lorsque Jules arrive, la mère lui dit « Ce n'est rien, une bêtise une gaminerie. »
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.